L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Parfois, eh bien, c'est le cas cette semaine, on va s'intéresser à l'immobilier neuf. Après une année 2020, une année difficile due aux élections et à la crise sanitaire et économique, eh bien, comment s'annonce 2021 pour l'immobilier neuf, entre baisse des mises en chantier, l'avenir du Pinel, les conséquences de la loi climat, construction, augmentation des prix, les nouvelles mesures de rénovation énergétique, comment s'oriente le marché en 2021 et qu'est-ce qui nous attend pour 2022, qui est une nouvelle année électorale. Alors pour répondre à ces questions, et bien nous avons quatre spécialistes autour de la table. On est ravis d'accueillir Nadia Kateb. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Vous êtes directrice commerciale France d'Eiffage Immobilier. À vos côtés, Henri Buzicazo. Bonjour Henri.
Bonjour.
Voilà, qui a ses quartiers ici sur les chaînes du groupe.
Je me sens très bien
Web
ici.
Web Radio, Radio Immo, Radio Patrimoine. Président de l'IMCI et membre du Conseil National de l'Habitat. On continue le tour de table avec Olivier Châtelet. Châtelain Malherbe. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de Vinci Immobilier. Et enfin, Sébastien Barraud. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Secrétaire général de l'Anacofi Immo. Enfin, en tout cas, c'est la casquette du jour puisque Sébastien a de nombreux talents et de nombreuses fonctions. Comment ça va Sébastien?
Ah, très bien.
Voilà, merci d'avoir réuni ce panel d'experts autour de nous pour ce numéro spécial d'Hebdo Patrimoine Immobilier 9. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Alors, comment va l'immobilier neuf? Si on regarde un petit peu les journaux, ce qui se dit dans la presse, eh bien, du côté de l'ancien, tout va bien, grand beau, année record, même l'an dernier, malgré le confinement. Par contre, il y a eu quand même des impacts sur l'immobilier neuf, crise sanitaire et économique, qui a eu des conséquences plutôt négatives. Les permis de construire ont chuté de près de 16% entre janvier 2020 et janvier 2021. Ça, c'est la Fédération française du bâtiment qui indique ces chiffres. Une situation qui inquiète les professionnels de l'immobilier, puisque en plus on a des permis de construire qui ne cessent de baisser. L'organisme prévoit que 316 000 nouveaux chantiers devraient démarrer en 2021 contre 351 000 en 2020, un exercice qui serait le pire depuis 25 ans. Alors on a des spécialistes sur le plateau. Est-ce que le tableau est si noir, Nadia Kateb?
Alors à ce jour, il n'est pas si noir. On a tous fait une très belle année 2019, donc oui, 2020, on a ressenti une baisse qui n'était pas directement liée au confinement, mais plus les mises en commercialisation qui se sont réduites. Pour autant, on a encore une visibilité sur cette année 2021, donc l'impact sera encore limité, puisqu'il y a beaucoup de chantiers d'envergure qui sont en cours. Je ne saurais pas vous dire pour 2022-2023, puisque là, effectivement, ça va être complètement corrélé aux nouveaux permis, aux nouvelles mises en chantier.
Vous ne nous avez pas amené la boule de cristal donc pour l'immobilier. En tout cas, bon, du côté d'Eiffage Immobilier, plutôt satisfaisant.
Oui, l'impact de la crise a été limité parce qu'en tant qu'aménageur, on est sur des chantiers d'envergure. Donc, quand vous avez
chantiers d'envergure, c'est quoi?
Alors, c'est la ZAC d'Anières, c'est la ZAC de Châtenay-Malabry, la ZAC Paul Auchard à La Haye-les-Roses.
Donc, c'est pas quelques dizaines de logements, c'est vraiment, quand vous construisez, on est plutôt sur un ordre de grandeur de centaines, c'est ça?
Oui, plutôt. Pour 900 pour la ZAC Paul Auchard, 1500 à Châtenay-Malabry et autant sur la ZAC à Anières également.
Bon, du côté des Fages, donc ça va plutôt bien. Olivier Châtelain-Malherbe, du côté de Vinci Immobilier, comment ça se passe?
Je rejoins ce que vient d'évoquer ma camarade, c'est plutôt positif. La promotion immobilière sont plutôt des temps assez longs et donc naturellement nous faisions des bonnes années 2017, 2018, 2019 avec une progression de réservations et ce qui entraînait évidemment une augmentation également des actes et des mises en chantier. Mmh. Donc forcément sur 2020, le ressenti immédiat n'est pas là, il y a l'inertie. Méfiance 2021-2022, mais pour le moment, en tout cas, les choses sont plutôt positives. Il nous manque autour de la table, pour faire une bonne boule de cristal, un banquier peut-être, parce qu'il y a leur vision qui est importante. Mais de côté de la promotion immobilière, on est plus interrogatif sur la capacité des administrés à valider nos permis pour le futur, justement.
D'accord. Bon, c'est là où le bas a peut-être blessé Henri Buzicazo. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la profession qui s'alarme, qui tire la sonnette d'alarme en avance ou qui pousse des cris d'orfraie, ou il y a vraiment eu un souci sur cet immobilier neuf l'an dernier ?
Il faut être très clair. Les chiffres sont là. Et d'ailleurs, je dis volontiers que un ministre du logement, une ministre du logement, depuis toujours, on a apprécié la réussite de son action à un indicateur qui est le nombre de mises en chantier. Bon, cet indicateur aujourd'hui n'est pas bon. Ça veut dire quoi ? Que l'offre, et on est entouré de grands promoteurs qui ont fait le maximum, qui font le maximum, mais l'offre aujourd'hui, pour des raisons qui leur échappent, je vais en citer deux, trois, n'est pas suffisante. Et on le sait, effectivement, sur des temps longs, on sait aujourd'hui ce qui ne va pas sortir de terre ou ce qui va sortir de terre dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est très simple. Hein, un chantier, il commence ou il ne commence pas, il est autorisé ou il ne l'est pas, et puis ensuite, il y a un processus de construction. Donc oui, on peut déjà dire que 2021, 2022, même 2023, ne seront pas à la hauteur des besoins. Ces fameux besoins, on a toujours dit qu'ils étaient à hauteur de 450 000 logements nouveaux par an. On avait même parlé de 500 000. On en est loin. On est en train d'atterrir sur les 300 000. Alors, les raisons. Oui, on a parlé de la crise du Covid. Elle a embarrassé les chantiers, mais là aussi les promoteurs... Je ne vais pas parler à leur place, on fait tout ce qu'il fallait faire, mais il y a eu des précautions sanitaires, ça a compliqué les chantiers, ça les a ralentis, ça les a enchéris aussi, parce que ça a un coût, hein, toutes ces précautions sanitaires. Non, le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est dans quelque chose qui a enfin été identifié par le gouvernement, c'est un divorce entre l'État et les maires. Et moi, je ne veux pas taper sur les maires. Déjà, je constate qu'il y a un divorce. Quand il y a un divorce, il y a des responsabilités de part et d'autre. Hein. Voilà, on ne va pas comparer à la vie sentimentale, mais c'est un peu ça. Et ça a précédé la Covid. Pour moi, il y a eu un acte dont on n'a pas mesuré la gravité, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. Elle a inquiété les maires, elle a supprimé 34% des ressources des communes. On leur a dit qu'il y aurait un mécanisme de compensation, elle a été mise en place, mais cette compensation est très imparfaite, on ne sait pas si elle sera durable. Voilà, ça a inquiété. Il s'est ajouté à ça, oui, bien sûr, la période électorale qui, en général, ralentit les choses, elle a été rallongée, cette période, à cause de la Covid. Mais le péché ontologique, c'est ça. Les maires doivent être rassurés. Et aujourd'hui, la mission qui vient d'être confiée au maire de Dijon, qui fait partie des grands maires de ce pays, tout parti confondu, c'est un maire dont on reconnaît l'action, c'est un maire bâtisseur, on lui confie la mission d'examiner pourquoi il y a eu ce divorce et pourquoi ses collègues maires ne signent pas les permis de construire. Bien sûr, il y a la question écologique, mais c'est pas la seule. Voilà. Ouais. Donc il faut rétablir ça d'urgence pour que les années prochaines soient prospères et que la demande soit satisfaite, parce que si les promoteurs ne peuvent pas faire leur travail à plein, le problème sera là. Le problème, il n'est pas chez les promoteurs, il n'est pas dans la demande. La demande, elle est là. Il faut qu'on la satisfasse. Et l'État a une responsabilité avec les collectivités.
Bon, lourde responsabilité hein, pour le maire de Dijon, parce que s'il y a divorce entre maire et État, c'est compliqué. Là, on est pratiquement obligé de trouver quand même un terrain d'entente.
Absolument.
Allez, on termine le tour de table avec Sébastien Barraud. Anna-Kofi Immo, là aussi, quel est le regard vous portez là, sur cette situation, comme on vient de le voir ? Donc, des promoteurs pas forcément inquiets, bon, qui ont quand même de l'activité, et on sait que la demande est là. En revanche, c'est l'offre hein, qui manque un petit peu aujourd'hui.
Et oui, effectivement, manque de stock. Manque de stock sur la partie distribution intermédiaire que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Alors, on en a, bien évidemment, et on sait que les promoteurs jouent le jeu. Et la preuve, ils sont ici présents avec nous et je les remercie. Mais il y a d'autres distributeurs, comme l'a dit aussi justement Olivier, sont les banques, parce qu'ils jouent à la fois le rôle de financement, mais aussi le rôle de distribution. Et là, il y a des petits points d'achoppement. Quand nous, il nous arrive de proposer un investissement locatif à un client, systématiquement, il va voir, ce qui est tout à fait normal, son propre banquier pour une opération de financement. Et comme par hasard, le banquier lui propose des fois une offre miroir. Alors ça, c'est peut-être un petit peu gênant. Ça s'appelle une petite distorsion de concurrence, on va dire. Mmh. Et puis, le financement est un petit peu plus compliqué. Il a été plus compliqué précédemment, parce que vous savez, on en avait déjà parlé précédemment sur le Haut Conseil de stabilité financière qui avait plafonné à un certain niveau les montants des investissements, etc. Même si ça a été réaugmenté en décembre dernier, on en est encore loin, parce qu'en fait, faut réfléchir avec un reste à vivre, faut réfléchir avec une stratégie, c'est ça le boulot. Le travail d'un conseiller en gestion de patrimoine que je représente là et sur la partie immobilier neuf, c'est d'aller travailler sur une stratégie globale, ouais, avec de l'immobilier, mais d'autres produits.
Mais je reviens sur ce que vous dites, juste, ça me chagrine un peu, c'est-à-dire que la personne qui va aller chercher son financement parce que son conseiller en gestion de patrimoine lui a dit, ben voilà, il y a un Pinel, il y a un MP, la banque va dire, ah mais cher monsieur, nous on a ça dans les étagères.
Alors, pas systématiquement, mais ça arrive. D'accord. Ça arrive. Et là, comme en plus, ils vont lui dire gentiment, bah, de toute façon, si vous faites ce produit-là avec nous, vous serez financé automatiquement. Parce qu'en fait, ils font un petit package. Alors que finalement, ça rentre pas forcément dans la stratégie. Dans la stratégie globale du CGP.
On a vos voisins promeneurs qui se regardent d'un air amusé ou dubitatif.
Mais ils ne savaient pas, peut-être ils l'apprennent, c'est pour ça.
Non, c'est parce que...
Nadia Kateb.
Ce qui nous a quand même permis de limiter aussi l'impact de cette crise, il faut le reconnaître, c'est que c'est tous nos canaux de distribution, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les partenaires bancaires, assureurs... Donc, pour moi,
la part justement entre des indépendants, justement conseillers en gestion de patrimoine, et des banques. Il y a la force du réseau bancaire. C'est une majorité quand même de d'affaires qui se font grâce aux banques.
Alors, ils fonctionnent différemment. Il y a une majorité parce qu'ils sont plus nombreux. Mmh. Les agences sont territorialement parlant, on en a beaucoup plus. Pour autant, ils ont une offre. Ils référencent tout le monde. Ils sont dans une démarche immobilière. Les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui propose dans une stratégie multiproduit l'immobilier parmi d'autres investissements. Donc ils ont plus une sélection aussi de proximité, de relation avec la qualité du promoteur, du constructeur et pas seulement de localisation. Donc c'est la différence entre quelqu'un qui va référencer 100 000 lots et quelqu'un qui va prendre 2-3 programmes parce que c'est en adéquation avec la rentabilité ou le conseil qu'on veut apporter.
Sur mesure versus mass market.
Et donc, pas pour défendre les banques, mais je pense que les interlocuteurs sont différents. Les interlocuteurs sont différents entre ceux qui font de la gestion de patrimoine aussi, puisqu'on les appelle comme ça au sein des banques, et les personnes chargées de financement. Donc, j'imagine que ça ne devrait pas se télescoper.
Olivier, pour vous, même constat. Même constat. Tous les canaux sont ouverts, on l'imagine bien.
Exactement.
Mais il n'y a pas de problème, enfin on va y revenir dans un instant, mais il n'y a pas de problème quand même de distribution. C'est-à-dire que quand on est dans une offre, voilà, on parlait de 450 000 et on sait que ça serait peut-être beaucoup plus et qu'aujourd'hui ça sera RFI, je veux dire, la demande elle est là.
Oui, mais c'est le doux équilibre entre l'offre et la demande, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et aujourd'hui, en effet, on manque d'offres. La demande augmente et on tient juste sur une chose qui est la solvabilité des clients. Mmh. Alors, je reviens à l'intérêt des banquiers qui distribuent les produits évidemment immobiliers et qui ont la connaissance de la solvabilité des clients. Les autres distributeurs, comment font-ils ? Ils génèrent du marketing pour pouvoir récupérer des contacts et ces contacts, ils ne les connaissent pas forcément. Même si la gestion de patrimoine, l'idée, c'est de suivre les gens sur le long terme. Donc, ils ont une idée quand même de la qualité, de la capacité de leurs clients. Mais voilà, c'est les grosses différences, c'est que les banquiers ont une clientèle captive et ils maîtrisent complètement leur solvabilité. Attention, je reviens moi, par contre aux banquiers. Ouais. Évidemment, s'il y a le moindre grain de sable dans ce rouage, la solvabilité, j'ai pas les calculs exacts et je voudrais pas me tromper, mais on perdrait énormément de potentiels clients si les taux, par exemple, devaient augmenter. Ouais. Quoi.
Non, donc, c'est un sujet majeur. Il est tellement important qu'il va concerner et le logement existant et le logement neuf.
Bien sûr.
On a devant nous une conférence de presse que tiendra bientôt le président de la FNAIM. Il pose la bonne question. Je trouve c'est courageux en disant, bon, ça va bien, mais jusqu'à quand ? Il faut savoir se dire ça. Ce n'est pas qu'on souhaite que ça aille pas bien. Mais on sait que la fragilisation des ménages, elle est plus devant nous. Tu parlais de la suppression ou de la raréfaction des aides. Bien sûr qu'on va avoir ça. Hein. On apprend ce matin par votre confrère des Échos que la France va mettre 67 ans à se remettre de l'utilisation de ces fonds pour aider les entreprises et les individus.
Alors, il y a pire, c'est l'Espagne, 89 ans. Mais il y a mieux. L'Allemagne, c'est 7 ans. C'est, voilà. C'est vrai que ça interroge.
Mais en tout cas, on sait, alors je ne sais pas si c'est 67, 50, 40, mm-hmm. on hypothèque toute une génération. Bon. Donc il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors, moi, je ne suis pas candidat pour que mes enfants ou mes petits-enfants paient la facture. On en avait besoin, mais ça va s'arrêter. Donc il va y avoir des ménages qui vont avoir une solvabilité réduite, voire qui vont être empêchés d'acheter. Les banques vont-elles suivre ou pas? Elles ont beaucoup aidé, elles continuent à aider les entreprises, les banques. Elles ont été au rendez-vous de l'histoire, franchement, avec l'aide de l'État, mais c'est elles qui ont fait. Est-ce qu'elles financeront tout autant en s'abritant derrière les critères du Haut Conseil ou sans s'abriter? Voilà, elles peuvent très bien ne pas accepter un dossier, point barre. Ça, c'est une inconnue. Il faudra qu'elles soient au rendez-vous parce que ces besoins, il faut les satisfaire et que la nation ne vit pas heureuse si ceux qui ont besoin de changer de logement parce qu'un enfant est né, parce que une séparation est prononcée, parce que, voilà, les événements de la vie, on ne peut pas différer la satisfaction des besoins en logement très longtemps. Donc ça va être un point crucial. Et la pression, moi, je la mets sur les épaules des banques, très, très clairement. Il y a une grande inconnue avec les taux, mais surtout avec les conditions générales qu'ils accepteront de faire. Et le scoring. Et voilà. Est-ce que ça passera ou pas dans le neuf, comme dans l'existant? Peut-être un peu plus dans le neuf, parce que le neuf, il est souvent un produit équivalent, il est légitimement plus cher, il est bon, voilà, il y a des exigences particulières, mais il y a aussi des aides. Rendez-vous aussi avec l'État et la finance, est-ce que les aides seront retouchées ou pas? Le prêt à taux zéro, le Pinel, ça c'est la deuxième économie.
Alors justement, on va se poser la question dans un instant, on va faire une première pause musicale, on se retrouve juste après pour discuter justement de ce qui pourrait gripper la machine et en particulier la remontée des taux, qu'on commence à s'inquiéter, c'est dans un instant.
So sad.
Oasis sur Radio Imo, Radio Patrimoine, Don't Look Back in Anger.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, ça continue sur Radio Patrimoine, bien évidemment, un spécial immobilier neuf avec nos quatre spécialistes du jour, Nadia Kateb, Olivier Châtelain-Malherbe, Henri Buzy-Cazot et Sébastien Barraud. Messieurs, dames, on parlait il y a un instant, effectivement, de ce qui pourrait gripper, justement, ce marché de l'immobilier neuf qui... On l'a vu, donc ne sort pas assez de biens hein, par rapport à cet objectif des 450 000. On est plus sur des 320 000 en ce moment. Vous avez soulevé cette interrogation, celle des banques, effectivement, puisqu'il faut financer tout ça, cette construction. Il y a une inconnue en ce moment, Sébastien Barraud, je vous tourne à vous, puisque vous êtes un expert du patrimoine. On parle beaucoup de ce qui se passe outre-Atlantique et de la remontée des taux. Est-ce que c'est une menace, à votre avis, qui pourrait arriver jusque sur nos côtes, puisqu'on on voit qu'effectivement, il y a eu des masses considérables qui ont été injectées dans le système, qui ont provoqué peut-être certaines bulles, qui sont en train de péter d'ailleurs. Je pense au Bitcoin cette semaine. trêve de plaisanterie. Voilà. Sur les taux, comment ça pourrait se passer? Est-ce que vous voyez une remontée des taux à un horizon plus ou moins proche?
Alors là, je pense... Vous parliez tout à l'heure de...
Boule de cristal, Fabrice,
boule de cristal. Là, c'est vraiment l'oracle qu'il faudrait. C'est Delphes, enfin, c'est la pitié, quoi. Parce que ça va bien un jour remonter, mais quand, comment...
Je précise, on a atteint quand même ce mois-ci, hein, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, un taux qui atteint en moyenne 1,07 sur une moyenne de 230 mois. C'est extrêmement faible, on est sur des taux historiquement bas. Ouais. En revanche, et là où le bas blesse, c'est que si on va voir son banquier, comme ils sont débordés, nos amis banquiers, c'est compliqué, et puis les conditions sont en train de se durcir.
Et ça se rallonge, les délais d'instruction se rallongent énormément.
Oui.
Effectivement, les conditions d'octroi, est-ce que lorsqu'un organisme de financement analyse un ménage qui a pu bénéficier du chômage partiel, par exemple, est-ce qu'il va le prendre en considération ou pas? Est-ce qu'il va se dire, finalement, il est dans une entreprise qui a peut-être eu des difficultés ou autre, etc. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui a bénéficié d'un PGE va pouvoir aussi se financer s'il a un besoin de se financer personnellement ou pour l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que certains chefs d'entreprise achètent leur mur et leur mur, leur fonds de commerce. Est-ce qu'un restaurateur, par exemple, va pouvoir, clairement, est-ce que demain, un restaurateur qui a eu je ne sais combien de mois de non, qui a bénéficié des aides, et c'était très bien, et là aussi, il faut le remercier, le gouvernement a vraiment fait le job là-dessus, mais est-ce que demain, parce que vraiment, les aides, c'est bien, mais ça va s'arrêter, la perfusion va s'arrêter, et est-ce que quelle va être l'analyse des banquiers? Est-ce qu'ils vont continuer à dire « je vais prendre le risque ou pas » ou est-ce qu'on va rester sur du quasiment zéro risque? Alors, comme les taux sont bas en plus, ils ne gagnent pas énormément d'argent dessus, donc la prise de risque est forcément...
Ils vont gagner sur l'assurance quand même. Hein.
Ah ça c'est classique.
On a l'impression même que l'assurance va devenir plus chère pratiquement
c'est
que...
C'est déjà le cas.
C'est le cas, ça y est, les courbes se sont croisées, c'est un vrai sujet.
Et c'est bien pour ça que l'assurance emprunteur, un bon CGP généralement, la propose de manière indifféremment de l'emprunt, parce que quelque part c'est là où on peut faire des économies sur une mensualité.
Oui, c'est là aussi où le banquier se rattrape.
C'est là où le banquier n'aime pas trop le faire, mais malgré les amendements qu'il y a pu y avoir, comme les amendements Bourquin ou la loi Lagarde, etc. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont en faveur du consommateur et donc des ménages. Mais des fois, comme par hasard, ça met un petit peu de temps ou les réponses arrivent pas très rapidement. Et donc, du coup, c'est là où ça grippe. Mais ça va être un vrai problème parce qu'effectivement, si les taux remontent, le secteur les prix vont augmenter déjà. Enfin, moi, je pense que les prix de l'immobilier n'ont pas... en tout cas, de l'immobilier neuf n'ont pas chuté, puisque forcément, comme le disait Olivier tout à l'heure, loi de l'offre et de la demande. On arrive sur des nouvelles normes énergétiques qui sont plus chères aussi, bien évidemment la construction. Et puis à l'heure actuelle, on a déjà des problèmes de matériaux, a priori, d'après ce que j'ai lu. Certains...
Pénurie de matières premières, en effet. Hein,
et du coup, automatiquement, à un moment donné, ça va se ressentir. Et ce qui est normal, le promoteur ou le constructeur ne va pas diminuer ou annuler sa marge, il faut bien qu'il vive aussi, donc les prix vont forcément, à un moment donné, au moins rester les mêmes. Mais moi, je vois plus une petite tendance haussière là-dessus. Et donc, tout le monde va se ressentir.
Nadia Kateb, justement, c'est intéressant sur ce niveau de prix. C'est vrai que l'immobilier neuf, c'est pas donné. Alors, on connaît les principes. Hein. Évidemment, le foncier, c'est compliqué. Ensuite, les matériaux, Sébastien en parlait à l'instant. On a un ogre chinois qui dévore toutes les matières premières, ça renchérit. Il y a même certaines pénuries. Est-ce que c'est en train de vous affecter sur les différents chantiers?
Alors, ça nous affecte, oui.
Et c'est à la marge.
C'est à la marge pour l'instant. Mais ceci étant, on étudie d'autres solutions comme recycler les matériaux et le béton décarboné aussi. Donc ça suffira jamais évidemment pour construire de grands ensembles. Donc pour l'instant, c'est à la marge en termes de pénurie de matériaux. L'immobilier neuf, non, il n'a pas baissé. Il n'a pas encore augmenté, mais on n'arrivera pas à les contenir très longtemps. Les normes évoluent,
oui.
Donc les coûts de construction vont évoluer aussi.
Donc fameuse RE 2020.
Oui, absolument.
Expliquez-nous en quoi ça vous impacte, du coup, cette nouvelle réglementation.
Alors, bon, comme toutes les réglementations, on va les absorber. Je pense que, alors nous, aujourd'hui... Bah,
vous allez les absorber ou c'est finalement l'acheteur final qui va voir son prix grimper de 10-15%, voire
non,
plus.
Non, parce qu'après, on aura un problème de solvabilité, donc... il y a un engagement quand même des grandes entreprises sur la RE 2020 et sur le bas carbone. Nous, on a déjà une bonne partie de nos projets qui sont, quand on sait que l'unité de mesure de base pour la RE 2020, c'est un E1. Aujourd'hui, nos projets sont sur ce qu'on a évalué pour Châtenay-Malabry, c'est le plus haut. Alors, plus le chiffre est haut, mieux c'est.
D'accord, c'est bien de le préciser. Voilà. Vous êtes C3, vous. D'accord.
Voilà, on est C3, E3. D'ici à cet été, les logiciels vont ressortir, donc on pourra refaire nos calculs pour voir si on est bon sur nos projets ou s'il faut rectifier.
Ouais.
Et puis, on espère qu'on sera bon, parce que comme on l'est déjà, puisqu'elle a été décalée, la RE 2020, on l'est déjà, donc on n'aura pas... il n'y aura pas un impact immédiat pour les permis de construire de 1er janvier 2022.
D'accord. Olivier Châtelain-Malherbe, pour vous, cet impact de cette nouvelle réglementation ?
Alors, elle avait été anticipée. Donc, je rejoins ce que vient de dire Nadia, d'une part, parce qu'on avait déjà la RT 2012 qui était quand même assez...
Costaud.
On rajoute à ça, nous, de la certification avec les normes NF, avec les hautes qualités environnementales, HQE, etc., etc., qui nous amène aussi à faire des travaux complémentaires afin d'obtenir des produits... livrable qui est avec peu de perte d'énergie, donc forte économie d'énergie. Donc tout ça est très anticipé. On est un petit peu comme le marché de l'automobile avant, c'est-à-dire qu'auparavant, vous vouliez les vitres électriques dans une voiture, c'était une option. Ben, aujourd'hui, c'est un petit peu le même cas. On se doit aujourd'hui d'avoir des appartements toute option. Et dans toutes ces options, il y a la qualité environnementale.
Et avec des énergies propres, évidemment, si on peut, avec des matériaux, biosourcés de plus en plus. Enfin, en tout cas, c'est une grande mode. Hein. Oui. On essaye de diminuer la part du béton. Pas évident, hein, surtout quand on est sur des grands ensembles comme vous. Est-ce que ça pénalise, justement, ou est-ce que, voilà, on s'adapte et ça va...
On s'adapte toujours. On est pris entre l'achat de notre terrain et la capacité des gens à pouvoir... investir sur notre programme, que ce soit en investissement locatif, comme évoquait Sébastien, ou en accession à la propriété. Et là où on fait le plus attention, c'est à l'accession à la propriété. C'est beaucoup plus fragile au niveau de nos clients. Donc on anticipe, on prévoit. On voit quand même qu'il y a des... On doit augmenter un petit peu les prix, hein, c'est clair. On a vu, moi, en tout cas chez moi, j'ai vu augmenter de 1 ou 2 points. Une chose importante, qui est le taux de désistement.
Oui. Hein,
c'est-à-dire qu'avant, j'avais des taux de désistement beaucoup plus bas auparavant, et surtout sur l'accession à la propriété. Et ce taux de désistement, c'est à la fois les particuliers qui peuvent se poser des questions, et c'est les banquiers qui refusent finalement aussi les prêts.
D'accord.
Donc,
mais les programmes, juste une question, parce qu'on en parle, on est sur une émission Connect qui va être multidiffusée, Radio Patrimoine, Radio Imo. Chez Radio Imo, on parlait des files d'attente qu'il y avait parfois dans l'ouverture des programmes. Alors aujourd'hui, on ne fait plus la queue physiquement, c'est sur Internet et c'est pire parce qu'en 3 minutes, on peut avoir 50 lots qui sont déjà vendus. Est-ce que vous observez toujours cet effet ? Ça veut dire qu'il y a quand même la demande, elle est à l'effort.
La demande est présente.
Mais ensuite,
il manque l'offre. Alors les gens bloquent la situation. on vous demande de vous positionner rapidement parce qu'il n'y en aura pas pour tout le
quitte
monde.
Peut-être que faire en sorte, enfin, on avait idée que son dossier allait passer et puis il peut être retoqué, c'est ce fameux désistement.
Entre le moment où vous avez décidé de modifier de faire un achat de résidence principale, de commencer votre recherche, il y a du temps qui est passé. Et en fait, le marché évolue au quotidien. Et là, il y a de moins en moins d'offres. Et donc, du coup, forcément, on vous impose de vous positionner immédiatement et rapidement. Nous, on n'aime pas ça parce qu'on préfère bien se positionner, bien vérifier la qualité de nos clients avant de les laisser se positionner. Mais malheureusement, le marché nous amène ça. Et je pense que dans l'ancien, c'est également le cas. Les produits, on voit bien sur la toile, ça passe très vite, mais ils reviennent.
Un bon produit au bon prix, c'est sûr que ça part dans la foulée. Et sans conditions suspensives, nous disent pas mal d'agents immobiliers aussi. Hein. Maintenant, les gens ont du cash. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience.
Oui, ils ont du cash. Il y a ceux qui ont du cash. Je voudrais qu'on se garde des discours de riches. J'en ai pas entendu de la part des deux promoteurs qui sont ici. J'en entends beaucoup de la part des spécialistes de l'ancien. J'appelle ça un discours de riche, parce que déjà, ceux qui ont acheté en 2020 n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont acheté en 2019. Ce sont ceux qui ont eu la chance d'eux. L'épargne qui a été constituée, les quelques 200 milliards, on sait qu'elle l'a été par 20% des ménages. Bon. Et dans les clients de Vinci ou d'Eiffage ou de leurs confrères, y a aussi les ménages moyens. Quoi. Voilà. C'est ça que j'appelle discours de riche. Je suis très heureux d'entendre un discours de grande responsabilité sur l'évolution des prix. Oui, ils vont absorber d'abord parce qu'ils savent faire, industriellement, et parce que la solvabilité de la demande, elle n'est pas élastique. Et c'est très honnête de dire, moi j'augmente d'un ou deux points, je vois les taux de désistement. Mais c'est ça. Ça, c'est pas un discours de riche. On augmente de 1 ou 2%. Alors moi, j'entends, mais 1 ou 2%, c'est rien. Mais si, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on va à la banque, ça fait pas la même équation. Donc, les promoteurs, non seulement vont devoir contenir les prix dans les 3 années qui viennent, voilà. Je pense même qu'ils devraient baisser. Je voudrais citer... ce ne sera pas facile. Ça veut dire qu'il faut que le foncier soit plus abondant.
Il faut trouver la bonne variable, des mesures de fond, bien sûr.
Et sur la marge, vous avez déjà fait le nécessaire. Les promoteurs ont contenu leur marge ces dernières années. Il faut être clair aussi. Je voudrais citer Jean-Philippe Ruggieri. Bon, voilà, on a tous de l'affection et du respect pour cet homme-là qui dirigeait Nexity, qui est parti il y a quelques mois. Il avait dit un jour, quelques mois avant de partir, il faut que les prix des logements neufs baissent de 5 à 7%. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça changera la face du monde. Alors pour ça, là, on est sur des décisions publiques. C'est essentiellement l'abondement de l'offre foncière. C'est arrêter la course normative. La RE 2020, j'espère qu'on l'a pour solde de tout compte pour un sacré moment. Parce que ça commence à faire. Voilà, il faut être très, très clair. Il faut les simplifier, les normes. Quand Benoît a dit, il était ministre, c'est pas hier, une dizaine d'années, il faut simplifier. Il était le premier à dire ça. On avait 6000 normes qui pesaient sur chaque promoteur. Aujourd'hui, il y en a 8000. Il y a 8000. 2000 de plus. Voilà. Donc ça ne va pas.
La simplification.
Ça ne va pas. Il faut s'en occuper rapidement. Juste un mot sur les banques. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je prends le risque. Je crois qu'en période de relance de tous les pays, de la zone euro notamment, les banques centrales, donc la Banque Centrale Européenne, si on parle de la nôtre, comme les autres, ne pourront pas s'offrir le luxe de laisser filer le prix de l'argent. Voilà. Donc je pense
pas
que...
de remontée des taux.
Non, je crois pas. En tout cas, pas de façon qui provoquerait la casse chez les promoteurs, notamment. C'est pas possible. Il me semble que là, on est tranquille pour 2-3 ans. Il faut faire repartir les économies nationales, et pas qu'en France.
Et puis il y a la dette de l'État aussi, la charge de la dette qui s'alourdirait.
Totalement.
Au passage. Totalement. Donc quand on est sacrément endetté, 1%, ça fait beaucoup si ça remontait. Effectivement, à prendre en compte. Messieurs, dames, on fait une nouvelle pause.
Et après, on parlera des aides.
Et après, le programme est fait par Henri Buzicazo. On parle des aides, effectivement, et puis de ceux qui se lancent dans l'immobilier vers tous les produits Pinel, etc., puisque c'est aussi, et bien évidemment, un objectif patrimonial. À tout de suite.
Santé à toi, Paris. Toi aussi ma vie d'avant. Toi Paris qui m'a tout pris. Tout mon sommeil, tout mon argent. Chanter pour toi Paris. Pour oublier ma vie d'avant. Entre les rêves et la famille. Paris m'a dit choisis ton camp. T'es pas sérieuse. Vas-y t'es pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. On va pas se mentir, Paris, elle fait la gueule, ma vie d'avant. Même à minuit, Paris, tu brilles. On voit que toi au premier rang. On va s'aimer, Paris. Dans tes rues, je te ferai des enfants. Ils auront tes yeux, je parie. Mais le sourire de ma vie d'avant. T'es pas sérieuse? Vas-y, t'es pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Derrière moi, j'ai laissé des sourires. Juste avant de partir, Paris, si tu me laisses sous ta pluie, ma vie d'avant peut revenir. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, mort du vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, mort du vivant.
Tibis, bye bye sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Et oui, on fait découvrir des nouveaux talents musicaux. Tibis, alors, non
au
Sébastien
test, on ne l'avait pas là.
Hein. Non. L'Hebdo Patrimoine spécial immobilier neuf cette semaine avec Nadia Kateb, Olivier Châtelain-Malherbe, Henri Buzicazo et Sébastien Barreau. Messieurs, dames, donc on a évoqué hein, ce problème du financement. Sébastien Barreau, je me tourne vers vous parce que cette émission elle s'adresse aussi aux conseillers en gestion de patrimoine. Ils sont nombreux, on le sait, à proposer des programmes, notamment le Pinel, des programmes de défiscalisation basés sur l'immobilier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on craint justement ou est-ce qu'il y a eu des annonces dans ce sens de la part du gouvernement?
Le Pinel, comme tout le monde le sait, a été prolongé jusqu'à 2024, même si chaque année dans la loi de finances, il y a toujours des petits allers-retours, c'est un peu le marronnier, certains essayent de le raboter. En tout cas, il était raboté. Là, dernièrement, il sera raboté chaque année un petit peu, donc il va bien s'éteindre un petit jour. Un jour, il va s'éteindre après 2024, naturellement, à moins que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Néanmoins, il y a quelque chose. Alors, on parle, c'est pas d'immobilier neuf, mais c'est un immobilier rénové. Et ça, c'est un produit, enfin une loi sur laquelle qui me tient à cœur parce que c'est la redynamisation des centres-villes et qui est au niveau des fiscalisations aussi intéressante que le Pinel, qui est la loi de Normandie, donc le précédent ministre. Et cette loi est intéressante parce que on l'a bien vu dans plein de villes. Mes parents habitent Béziers, donc j'ai vu comment ça s'est passé. On pouvait plus se garer, c'était vide, les appartes tombaient en décrépitude,
désertifiés,
tout ça pour construire toujours plus loin, des maisons individuelles essentiellement, pas du collectif, mais plutôt de l'individuel. D'où les temps de trajet rallongés, enfin toutes les crises sociales qu'on a pu avoir, puisque c'est temps de trajet rallongé, voiture, embouteillage, prix de l'essence qui augmente, occupation des ronds-points. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Loi de Normandie est quelque chose sur laquelle il faut se pencher. À mon sens, et on a déjà discuté avec Henri, il n'y a pas assez de villes encore qui sont concernées par le dispositif.
Cette opération cœur de ville, est-ce qu'on a un premier retour? Ça n'a pas démarré de manière fulgurante?
Alors, très clairement, on n'a aucun chiffre public. Maintenant, quand on se renseigne un peu, Hier, j'étais dans une grande région de France, la Bretagne. J'ai échangé avec des spécialistes, des promoteurs, mais aussi un responsable d'Action Logement, Crédit Agricole. Enfin, bon, on est très proche de cette action de revitalisation dans cette région comme dans toutes les autres. Non, les objectifs n'ont pas été atteints. Il va falloir les booster. Pour diverses raisons, un manque de notoriété, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, que Sébastien le fasse, ce produit n'est pas connu. Quand il y a une liste limitative de villes, ça ne va pas, parce qu'on peut vouloir investir dans une autre ville qui est dynamique, mais qui pour des raisons politiques n'a pas été mise dans la liste. Il y a 222 villes aujourd'hui. Une proposition, c'est de dire, mais prenons une toise, et disons que toutes les villes moyennes de, je ne sais pas, depuis 40 000 habitants, par exemple, seraient dans la NAS. Il faut simplifier. Déjà, le gouvernement en a pris la mesure. Julien de Normandie, avant de partir, avait fait en sorte que ça ne concerne pas que les cœurs de ville, mais toutes les villes en question, parce qu'avant, c'était en plus des cœurs parties de ville. Ouais, et deuxièmement, que la liste des travaux éligibles pour la rénovation des logements soit rallongée. Il faut simplifier, il faut booster ce dispositif, parce qu'il est très bon, en effet, sa philosophie est très bonne. Un mot sur le Pinel. C'est très bien aujourd'hui, je le dis aux investisseurs qui se poseraient des questions. Alors, avec une offre qui n'est pas suffisante chez vous, hein, Vinci et Fage ou tous les autres, mais il faut se dépêcher parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Bon, et le Pinel est un puissant booster pour constituer un patrimoine locatif et abonder l'offre locative. Est-ce qu'on pourra se passer d'un booster pour... La réponse est non. Puisque je vous disais hier, je raconte ma vie, que j'étais en Bretagne, je voyais un homme pour qui j'ai un profond respect, qui a inventé la défiscalisation locative, c'est Pierre Méhaignerie. Bon, j'étais son collaborateur à cette époque-là, ça ne me rajeunit pas, mais j'assume. Ça veut dire que de façon ininterrompue depuis 1986, on a de la défiscalisation, ça a changé de nom, ça a changé de profil. Ceux qui disent « on peut vivre sans » se trompent, sauf à dire « on va agir sur le foncier, etc. » C'est-à-dire que les logements seront tellement peu chers qu'on n'aura pas besoin de ça. Ce n'est pas demain. Pendant les années qui viennent, je ne vois pas un nouveau président de la République ou une nouvelle présidente de la République, puisqu'il y aura une élection entre-temps, dire « maintenant, on va s'en passer, et donc on va faire chuter le nombre de logements locatifs supplémentaires chaque année. On va pas satisfaire. » C'est impossible. C'est démocratiquement impossible. Voilà, le sujet, il est simple, donc je pense qu'on peut être rassuré et que les promoteurs, de ce point de vue-là, peuvent dormir tranquilles. Ils auront une aide. Alors, est-ce qu'on repassera de l'amortissement ? Moi, je plaide pour ça. Voilà, on a connu ça avec le périsol, plutôt qu'une réduction d'impôt. C'est de la mécanique.
C'est toujours une incitation et bon, ça concerne, ça revient à notre débat tout à l'heure, quand même, une tranche quand même.
Et quand je parle d'amortissement, je dis qu'il faudrait stabiliser tout ça, c'est-à-dire que ce soit dans le code général des impôts et que ce ne soit pas une niche. C'est ça
qui est embêtant. Que ce ne soit pas peut-être remis en question chaque année avec des arbitrages.
Exactement, et que ce soit fragile.
Qui fragilise la lisibilité.
Exactement.
Une question, Olivier, une question que je voulais vous soumettre, c'est les déclarations récentes du Premier ministre, Jean Castex, avec ce milliard d'euros de plus pour construire des logements verts. Comment ça a été accueilli chez vous ?
Comme on se le disait tout à l'heure, heureusement, on avait commencé à augmenter le verdissement de nos programmes. Oui. Nous, on a commencé par notre région lyonnaise, Rhône-Alpes-Auvergne, dans lequel le patron de la région a pris ce sujet en main il y a quelques années et a d'ores et déjà augmenté le verdissement de nos opérations. Donc nous, on l'accueille ça encore une fois. On avait anticipé, on accueille ça bien volontiers, c'est bien normal. En même temps, on fait encore plus attention à l'artificialisation des sols. On fait très attention à ce qu'on va construire. Je reviens au bas carbone qu'évoquait Nadia tout à l'heure. Tout ça est vraiment prévu et ce million, il est le bienvenu. Attention comment il va être distribué, parce que là, on n'a pas les détails. Et il ne faut pas se tromper de là où on va le mettre, parce que comme tout est considéré comme une niche fiscale, il risque d'y avoir des niches qui vont être plus sollicitées que d'autres et ça ne va pas être extrêmement bien réparti. Et j'en reviens au de Normandie, qui en a fait un super produit pour revitaliser et redynamiser les petites métropoles, on va dire. Et on voit bien l'intérêt du confinement sur les petites métropoles qu'on appelle les villes à cathédrale, qui sont sur toute la France. On a des très belles villes. Et c'est typiquement sur ce type de site où il faut vraiment faire un effort en centre-ville pour améliorer ces centres-villes et non plus s'écarter à la campagne et artificialiser les sols. Donc on fait attention à tout ça. Attention au zonage Pinel, parce que c'est là aussi où, on l'a bien vu, des villes comme Angers ont eu pendant une dizaine de mois, ont échappé au dispositif Pinel, parce qu'il a fallu que le maire se batte par le préfet pour obtenir un fameux B2 zonage, pardon pour les mots un peu compliqués, mais ou en tout cas les abréviations, et, le fameux B2, pour qu'il finalement puisse faire du Pinel. Et moi, c'est une commune sur laquelle je fais de la promotion et je construis, et je peux vous dire que c'est un super marché, quoi.
Ouais. Nadia Kateb, justement, sur ces aides aussi, ou sur le verdissement, cette annonce, reconversion des friches industrielles, est-ce que c'est aussi une des solutions pour gagner sur un foncier qui est de plus en plus difficile à débloquer ?
Oui, c'est une des solutions. Alors, comme dit Olivier, l'aide est la bienvenue et fort heureusement, sans attendre les annonces, les friches sont déjà à l'étude au niveau... des aménageurs. Alors, je dis ça parce que chez nous, on a Eiffage Aménagement, mais pas que chez Eiffage Aménagement. Les coûts, aujourd'hui, sont supportés par les promoteurs. Est-ce que aujourd'hui c'était la RT 2012 pour obtenir le PTZ, pour obtenir le Pinel ? Aujourd'hui, voilà, le prêt à taux zéro, pardon. Aujourd'hui, ce sera la RE 2020. Si c'est soumis au verdissement, il faut savoir que lorsque... on dépose un permis de construire, lorsqu'on étudie un programme immobilier, c'est en concertation avec les élus qui connaissent bien leurs administrés. Les jeunes aujourd'hui, et c'est aussi un des moyens, parce qu'en dehors d'obtenir un permis de construire, il y a souvent des recours. Et aujourd'hui, on est intéressé par l'écologie.
Bien sûr.
Les jeunes aussi. Donc, une des raisons qui les fait aussi venir vers le neuf, c'est qu'il faut du verdissement, il faut des îlots de fraîcheur, il faut des matériaux biosourcés. C'est plus cher à l'achat, mais c'est un prix de revient qui est moins élevé que dans l'ancien. Donc, oui, on attend de voir comment seront réparties ces aides, mais effectivement, la démarche est entamée, donc... C'est bien de nous rejoindre en cours.
Voilà, démarche à entamer. Bon, ça va dans le bon sens, sauf que le diable étant dans les détails, il faut voir. Hein. Des fois, c'est peut-être plus difficile ou plus cher de bâtir sur ce qui est déjà bâti et de reconvertir que de démarrer du neuf.
C'est pas une grande mesure. Hein. Je voudrais tempérer l'ardeur quand même. Hein. Il y avait un fonds qui était prévu dans le plan de relance qui était de 350 millions. Ce n'est qu'une extension de ce fonds parce qu'il a déjà été consommé. Donc ça prouve que les promoteurs, les maires sont prêts à se mobiliser pour utiliser toutes les ressources foncières, voilà, et ne pas rajouter de constructibilité, d'utiliser ce qui est l'existant. Il y a un vrai travail. Mais là, il ne faut pas non plus attendre tout de l'État, ce que dit Nadia est vrai, les promoteurs, ils se bougent. Il faut dire, sur l'histoire du verdissement, oui, c'est des contraintes, oui, c'est des risques d'enchérir les coûts, tout ce qu'on veut. Bon, c'est pas un gadget. C'est fini, ça. Alors, il y a les maires verts, comme on dit. Mais tous les autres sont sensibles au sujet. Il y a ici des professionnels qui demandent des permis de construire. Ils ne les demandent pas qu'à des maires verts. Ils ne les demandent pas qu'à Lyon, à Tours ou à Bordeaux. Et même là où il y a des exigences fortes comme à Lyon, vous y arrivez. C'est vrai que Stéphane Raymond, hein, le patron de région, fait un travail remarquable, mais comme d'autres de ses confrères. Mais à Lyon, il n'a pas été pris de court. Naturellement, il y a un durcissement du dialogue aujourd'hui avec les maires verts. Pour plein de raisons, mais ce dialogue va se renouer pour faire des beaux produits. Et oui, les jeunes ou les moins jeunes, ils veulent des produits performants énergétiquement, mais aussi avec un autre art de vivre. Le neuf offre ça. L'existant a beaucoup plus de mal. L'existant, il est déjà là. Si on veut le transformer, ça coûte très cher. Mais sur les produits neufs, on est en train de changer la nature de l'offre. Et c'est très sexy, il faut le dire.
Ouais, alors sur la rénovation, il y aura aussi beaucoup à dire. D'ailleurs, pas mal, une belle enveloppe qui a été débloquée. Mais ça fera l'objet d'une autre émission, chers amis, puisqu'on arrive déjà au terme de celle-ci.
Oh, déjà.
Eh oui. Oui, mais c'est pas grave, on en refera. Un grand merci en tout cas à tous nos invités. Merci Sébastien Barraud, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Anacofi Imo, Olivier Châtelain-Malherbe, directeur général adjoint de Vinci Immobilier, Henri Buzicazo, président de l'IMSI, et Nadia Kateb, merci, directrice commerciale France d'Eiffage Immobilier. On en sait un petit peu plus, voilà quelques pistes de réflexion. Bon, pas la boule de cristal pour 2022, on verra et on aura l'occasion de redébattre de tout ça. Et Sébastien.
Quand le bâtiment va, tout va.
Bah,
c'est un vieil adage, mais franchement, Ça fait de l'emploi, ça fait plein de choses, et voilà, et c'est important.
Ouais, ça ramène un peu de sous dans les caisses de l'État, qui en a bien besoin. Merci Sophie Bernard qui a préparé cette émission avec moi, à Baptiste Plouchard qui l'a réalisée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.